Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Mélomanie pour le numéro qui ouvre l'année 2025 de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Je vous renouvelle mes meilleurs voeux en vous souhaitant notamment de très beaux moments musicaux. Selon notre habitude, nous allons encore vous en proposer de nombreux au cours de cette émission inaugurale avec mon fidèle complice Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Comme la semaine dernière, Serge et moi, nous avons le plaisir de recevoir deux invités d'honneur aujourd'hui, la chanteuse Anna Ramad et le chanteur et guitariste Julien Casarino. Avec leurs camarades du Pink City Orchestra, ils se produisent le dimanche 9 mars au Casino Barrière à Toulouse pour leur spectacle musical Les Étoiles du Cinéma, du chant et de la danse sur des musiques de films célèbres. Anna et Julien vont nous expliquer précisément de quoi ils retournent en seconde partie de ce numéro. Pour l'instant, petit regard dans le rétroviseur avec Serge sur les concerts récemment donnés à Toulouse. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue à vous trois, mes meilleurs voeux à Anna Ramad et Julien Casarino qui viennent pour la première fois dans cette émission. Nous allons commencer en revenant sur le concert du Nouvel An qu'a donné l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Tarmo Peltokoski à la Halle aux Grains. J'ai dit le concert, je devrais dire les concerts puisqu'il y en a eu trois, les 31 décembre, 1er et 2 janvier. Tous à guichet fermé, il va sans dire. Serge, vous avez assisté à celui du 31 décembre. Il y avait une seule œuvre au programme, la 9e symphonie de Beethoven. Ça a été une fin et un début d'année en forme d'apothéose, on peut le dire.
On peut le dire. Et il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, il s'agit du concert de Nouvel An. Et la 9e symphonie de Beethoven, on célèbre le bicentenaire de sa création, puisqu'elle a été créée le 7 mai 1824. À Vienne, il s'agissait d'un événement commémoratif en même temps. Alors, on connaît la grande maîtrise de Tarmo Peltokoski à l'égard des vastes architectures, qu'il dirige d'ailleurs toujours sans partition. Il a dirigé sans partition la symphonie Résurrection de Mahler, la 2e symphonie, ce qui est du délire, hein. Et là aussi, il a dirigé sans partition cette 9e symphonie, appliquant la maxime de Toscanini, il vaut mieux avoir la partition dans la tête que la tête dans la partition. Et donc, effectivement, c'est ce que fait Tarmo Peltokoski. Il a également adapté à l'œuvre la disposition des pupitres de l'orchestre, c'est-à-dire il a disposé les pupitres différemment des habitudes de l'Orchestre National du Capitole. Les premiers violons sont à gauche, les seconds violons à droite, les contrebasses à gauche, contrairement à ce qu'est l'habitude dans cet orchestre. Cette disposition, il m'a dit lui-même que c'était pour l'acoustique, pour le son, mais en même temps, c'est une disposition qui était utilisée à l'époque et encore utilisée de nos jours en Europe de l'Est. Et donc, il a dirigé non seulement l'Orchestre National du Capitole, mais également un double chœur qui était d'une part le chœur de l'Opéra National du Capitole, là aussi, qui est dirigé par Gabriel Bourgoin, mais s'est joint à ce chœur celui de l'Opéra Orchestre National Montpellier-Occitanie, qui est dirigé par Noël Génie. Donc il y avait un double chœur et quatre solistes vocaux, évidemment, avec vraiment du très haut niveau, la soprano Elsa Dreizig, la mezzo-soprano finlandaise Tuija Knittila, je ne garantis pas la prononciation du finlandais, le ténor également finlandais Tuomas Katajala et la basse allemande Albert Domen, qu'on avait déjà vu d'ailleurs à Toulouse. Mais alors, la manière d'approcher cette symphonie par Tarmo Peltokoski est vraiment très personnelle. Il en fait une œuvre de combat et tout débute avec le premier volet de la symphonie, qu'il aborde avec une énergie vraiment irrésistible. Et puis le rythme souverain du scherzo est suivi de cette grande et belle méditation de l'adagio. Mais entre les deux mouvements, il a procédé à l'entrée en scène du chœur et des chanteurs solistes, parce qu'il voulait éviter que cette agitation se passe après l'adagio. Il l'a très bien fait, il l'a fait là. Et donc, il a attaqué effectivement la direction du final. Et là, toute l'introduction est vraiment pleine de surprises, avec enfin l'énoncé du thème générateur, le fameux thème qui est devenu l'hymne européen d'ailleurs. Là, il le dirige avec une ferveur, avec une ardeur incroyable. beaucoup plus rapidement que l'habitude, mais on sent qu'il y a derrière une volonté de ferveur, effectivement. Et donc, on a eu droit au grand récitatif de la basse, en l'occurrence Albert Domen, d'une noblesse et d'une intensité vraiment qui donnait le frisson, hein, impressionnant. L'arrivée des chœurs, la combinaison des voix, magnifique, avec la pureté angélique de la soprano, Elsa Drézik, c'était magnifique, vraiment magnifique. Le ténor qui déploie un héroïsme, mais vraiment très maîtrisé, et puis donc la mezzo-soprano, qui a un rôle beaucoup plus modeste, hein, dans le quatuor, mais qu'on doit entendre et qu'on entend avec cette rondeur du timbre parfaite. C'était une sorte de marche inéluctable vers la félicité universelle, et donc avec une sorte de conviction fébrile de la direction. Vraiment un très beau moment, ça a eu un succès monumental, on peut dire, et l'ensemble des interprètes ont à haute voix célébré 2025 et souhaité à haute voix à tout le public la bonne année. Donc, et c'était la conclusion de cette soirée.
Comme le veut la tradition, eh bien je pense que personne ne verra d'inconvénient à ce que l'on écoute une nouvelle fois le final de la 9e symphonie de Ludwig van Beethoven et son hymne à la joie. Le voici dans une version dirigée par celui qui était encore à l'œuvre cette année au concert du Nouvel An à Vienne, Riccardo Muti. finale de l'hymne à la joie et de la 9e symphonie de Beethoven, une version de l'Orchestre symphonique de Philadelphie sous la direction de Riccardo Muti. Notez que le prochain concert de l'Orchestre national du Capitole a lieu ce samedi 11 janvier à la Halle aux Grains, où Tarmo Peltokoski va diriger A Sea Symphony de Ralph Vaughan Williams. Nous allons vous présenter cette soirée en seconde partie d'émission. Retour maintenant sur le 3e concert de la saison des Clés de Saint-Pierre, donné à Saint-Pierre-des-Cuisines ce lundi 6 janvier. Le programme était intitulé « Éclat cuivré » et pour cause, puisque nous y avons entendu un quatuor de cuivre, deux trompettes et deux trombones. Nous y avons assisté tous les deux, Serge, et je vais vous laisser nous rappeler qui étaient les quatre musiciens qui se sont produits ce soir-là et quelles œuvres ont été jouées. Il y avait beaucoup de découvertes.
Ah oui, absolument. Et le quatuor de cuivre ce soir-là avait pour nom « Baccaro Quartet ». Déjà un nom un peu particulier. Et il était composé d'Hugo Blacher et Thomas Pesquet à la trompette. Thomas Pesquet étant le trompettiste et pas l'astronaute, évidemment. Et aux deux trombones, il y avait Louis Zognois et Fabien Dornic, qui est le trombone basse soliste de l'Orchestre national du Capitole. Tous les quatre sont évidemment de grands animateurs des pupitres de cuivre dont on dit souvent beaucoup de bien à ce micro parce qu'il le mérite absolument. Et donc on a eu droit à un déploiement de virtuosité, de précision. Alors là je voudrais vraiment insister là-dessus, la précision et l'équilibre entre les quatre musiciens étaient vraiment parfaits. On sent qu'ils sont très habitués à jouer ensemble.
Sachant que leur quatuor est constitué tout de même, déjà donné des concerts ensemble.
Comme un quatuor à cordes, hein, c'est vraiment pareil. Et donc, ça a débuté avec une pièce brillantissime, on peut dire, qui s'appelle Toccata, qui est de Edmund Heines. Ensuite, alors, contraste complet avec une pièce d'Alexandre Glazounov, très solennelle et méditative, qui a pour titre In modo religioso. Donc, on comprend que l'expression est tout autre. Et enfin, une pièce de Mozart, après ces deux compositeur un peu moins connu. Il s'agissait du Divertimento numéro 4, composé pour trois cordes basset et qui a été arrangé par un certain Dieter Bonelli, qui en a fait l'œuvre que l'on a entendue pour deux trompettes et deux trombones. Alors, ça reste du Mozart, vraiment, il n'essaie pas de sortir du style, hein. Donc c'était très très beau. Ensuite, un compositeur que, pour ma part, j'ai découvert, qui s'appelle Wilhelm Ramsoe, qui était un violoniste, en fait.
Et chef d'orchestre.
Et chef d'orchestre. Les quatre musiciens se sont assis pour jouer cette
c'était
pièce.
C'était la pièce la plus longue.
La plus longue du concert. Et la trompette de Thomas Pesquet a été remplacée par un cornet à piston, donc. C'est une pièce très virtuose et très belle, hein, avec cinq mouvements et une volubilité qui est demandée au tromboniste. Vraiment impressionnante. Hein. Et donc, ils ont joué ça avec une facilité.
Oui, parce que c'était très difficile quand même.
Très, très dur, très virtuose, hein, vraiment. Ensuite, après, en deuxième partie, on a eu droit à des extraits du Casse-Noisette de Tchaïkovski. Alors, ça a été adapté pour les cuivres par un certain Hubert Mexner. J'avoue, j'ai découvert
encore
ce
une
soir-là.
Ouais.
Et ils ont donné quatre extraits du ballet, l'ouverture, la marche, la valse des fleurs, évidemment, le plus célèbre, et le trépac bouillonnant.
Russe, oui.
Ensuite, on a eu droit à une œuvre originalement écrite pour les cuivres, qui s'appelle d'ailleurs Symphonie pour cuivre, d'un certain Victor Ewald. Et ça a été là aussi adapté à l'effectif en question par un certain Jari Villanueva. Là aussi, vraiment une pièce très originale, suivie d'une pièce d'un compositeur, lui, très connu, puisqu'il s'agit d'Astor Piazzolla, qui était un Ritratto di Alfredo Gobbi. Alors, c'est un hommage à un ami d'Astor Piazzolla, violoniste. Là, c'était une pièce extrêmement colorée. On reconnaît tout de suite du Piazzolla, d'ailleurs. Et ça a été adapté au quatuor de cuivre par Thierry Kans, qui est un grand trompettiste, un grand professeur.
Et enseigne au CNSM de Lyon.
Voilà, exactement. Et puis, le programme s'est achevé avec une pièce de Thierry Thibault qui s'appelle « Alla Cubana », donc ça dit tout ce que ça veut dire. Le compositeur est d'ailleurs lui-même tubiste, et donc là, il a composé cette œuvre très colorée, avec des rythmes très chaleureux. Donc, les quatre musiciens qui ont présenté d'ailleurs les œuvres, hein, notamment Hugo Blacher.
C'est essentiellement Hugo Blacher qui a présenté la soirée.
Voilà, vraiment avec beaucoup de simplicité et de bonne humeur. Et ils ont donné deux bis, hein, puisqu'ils ont été extrêmement applaudis.
Par un public, c'était complet. Hein.
Ah oui, oui. Et il y avait beaucoup, on a remarqué, beaucoup d'étudiants du conservatoire, en particulier des classes de cuivre, évidemment, qui étaient là en nombre. Et donc, en bis, on a eu droit à une rumba d'abord, et ensuite à une musique de film, du film En fanfare, qui reprend une chanson de Charles Aznavour, Emmenez-moi, qui a conclu donc la soirée dans la bonne humeur.
Oui, Emmenez-moi, les paroles sont d'Aznavour, chanté par Aznavour bien sûr, mais la musique n'est pas d'Aznavour, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens.
Ah oui, oui, oui.
C'est d'un certain Georges Gavarinz.
Gavarinz, oui, exactement, oui, oui, oui. Ça a été une belle soirée qui avait pour titre Éclat cuivré, et on a eu vraiment droit à beaucoup d'éclats.
Et parmi les découvertes au programme de ce concert Éclat cuivré, il y avait le quartet numéro 4 opus 37 de ce compositeur danois Wilhelm Ramsøe, dont je vous propose d'écouter le troisième mouvement, Scherzo Allegro Vivace. Le troisième mouvement, Scherzo Allegro Vivace, du quartet numéro 4, opus 37 de Wilhelm Ramsøe, pièce qui était donc au programme du concert Éclat cuivré le 6 janvier à Saint-Pierre-des-Cuisines. Prochain concert des Clés de Saint-Pierre le lundi 3 février à 20h, avec un programme intitulé Quatuors en contraste. Il s'agit cette fois-ci de Quatuors à cordes. Fin de cette première partie d'émission, une courte virgule musicale, et l'on se retrouve avec Serge Chosy et nos deux invités d'honneur, Anna Ramad et Julien Cassarino. Pour l'agenda de Mélomanie, restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
Et nous commençons cet agenda de Mélomanie avec nos deux invités d'honneur justement, la chanteuse Anna Ramad et le chanteur et guitariste Julien Cassarino. Je rappelle que vous êtes tous les deux membres du Pink City Orchestra avec lequel vous vous produisez le dimanche 9 mars à 17h au Casino Barrière de Toulouse où vous donnez le spectacle Les étoiles du cinéma, musique, chant et danse sur des extraits de bandes originales de films célèbres. Avant de parler du Pink City Orchestra lui-même, comme c'est la première fois que vous venez à l'émission, nous allons d'abord parler de vous parce que vous avez des parcours assez différents l'un et l'autre tout de même. Vous, Anna, pour ceux qui ne sauraient pas, vous êtes la fille d'Isabelle et Gilles Ramade, fondateur de la compagnie Figaro & Co, bien connu dans le milieu du spectacle vivant à Toulouse et dans la région. Vous êtes passé par le conservatoire à rayonnement régional de Toulouse. Et bien que vous soyez une vraie artiste de music hall, je crois qu'on peut le dire, puisque vous avez touché au théâtre, à l'opérette et à la comédie musicale, vous avez suivi à un moment donné une formation classique.
Oui, tout à fait. En fait, j'ai commencé à faire des spectacles quand j'étais enfant. On m'a un peu poussée sur la scène, mais on a bien fait. On a bien fait de me pousser parce que j'étais une enfant très, très timide. Et c'est la scène qui m'a permis, je pense, de m'exprimer, en tout cas, de me sentir à ma place. Donc, j'ai commencé à faire de la comédie musicale, des opérettes. Et au bout d'un moment, j'ai senti qu'il fallait quand même que j'acquière une technique classique parce que l'opérette, ça me plaisait beaucoup, l'opéra aussi. J'ai eu envie un petit peu d'expérimenter ça. Donc, j'ai fait un petit peu tard le conservatoire. Je l'ai fait à l'âge de 22 ans. Et voilà, je suis restée un peu plus de 2 ans. Je n'ai pas resté très longtemps, mais j'ai appris énormément. Donc, je faisais le conservatoire et en même temps, je faisais des spectacles. Donc, j'ai toujours mélangé un peu les styles. Je faisais du jazz, de la pop et du classique. J'aime bien mélanger les genres musicaux.
Le terme enfant de la balle semble avoir été presque fait pour vous. Oui. Alors, vous formez un duo avec votre sœur Mathilde, les Manhattan Sisters aussi.
Oui, tout à fait. On a eu envie de chanter ensemble toutes les deux. Et on adore les Andrew Sisters. On adore chanter à deux voix. Au départ, c'était juste un concert sur des musiques des années 50. Et au bout d'un moment, on s'est dit, on a quand même envie que ce soit une comédie musicale parce qu'on a été vraiment bercés par les comédies musicales avec Gene Kelly, Chantons sous la pluie, etc., Les Demoiselles de Rochefort. Et on s'est dit, on va écrire notre propre petite comédie musicale qui s'appelle Les Manhattan Sisters. Et ces deux sœurs qui vont à la conquête de Broadway, qui sont serveuses dans le Massachusetts et qui essayent de tout tenter pour être connues. Ça ne se passe pas exactement comme prévu. C'est très drôle, très décalé. Enfin, j'espère que c'est drôle. Nous, ça nous fait rire en tout cas. Et voilà, et on le joue maintenant depuis 2014.
Et comme si ce n'était pas assez, j'ai vu que vous faisiez aussi du doublage.
Alors ça, j'ai fait ça complètement par hasard quand j'avais 19 ans. J'ai passé un concours national qui demandait en fait à des candidates d'envoyer leur voix pour jouer le rôle d'une fée dans un nouveau Disney qui s'appelait La Fée Clochette. C'était sur les aventures de La Fée Clochette et j'ai eu le rôle. Et j'ai eu la chance que le Disney marche très très bien et parce qu'il y a eu 6 autres volets après qui sont sortis au cinéma. Et donc, je pouvais faire un petit peu de doublage et doubler un petit peu parfois des séries, des petits rôles. Ce n'est pas la partie principale de mon métier parce qu'il faut quand même plutôt habiter sur Paris pour en faire beaucoup. Et puis moi, j'aime beaucoup faire des spectacles, j'aime bien le doublage, mais voilà, c'est une partie du métier différente. Et actuellement, je double la Schtroumpfette. Voilà, je suis la voix officielle de la Schtroumpfette. J'en suis très fière.
Vous avez un micro bleu, donc c'est pour ça.
Exactement.
Ça vous va très bien pour faire la Schtroumpfette. Alors, Julien Cassarino, vous, c'est un parcours différent. Bien que vous ayez une grande sœur chanteuse lyrique.
Ah oui.
Mais vous êtes finalement venu à la musique assez tardivement, parce qu'on ne l'a pas dit, vous êtes aussi un passionné de cinéma. Mmh. On va parler beaucoup de cinéma dans quelques minutes. Vous êtes un cinéphile, vous êtes critique de cinéma, mais vous êtes guitariste, chanteur, mais vous êtes venu un peu en autodidacte. Est-ce que c'est le mot qui convient ?
Tout à fait, oui. En fait, ma sœur était donc chanteuse lyrique, elle a fait le conservatoire aussi, et elle a eu une belle carrière quand elle était plus jeune. Elle a chanté notamment avec Roberto Alagna, ou elle a chanté avec Jean-Philippe Lafont.
Un autre Toulousain.
Voilà. Elle a même eu droit à un cours avec Montserrat Caballé à l'époque. Et moi, j'étais pas du tout parti pour faire de la musique. Moi, je voulais être journaliste. Enfin, j'ai toujours aimé écrire, donc j'étais plus parti sur l'écriture. Et quand j'ai eu 15 ans, j'ai été un peu projeté là-dedans par un ami de lycée qui m'a dit « faisons un groupe ». Et donc, j'ai créé un groupe de métal qui s'appelait Psycup, qui fait une jolie carrière puisque ça fait 30 ans que ça existe. Donc d'un groupe de lycée, c'est devenu un groupe national et même un peu international puisqu'on a joué ailleurs. Et on a sorti des albums quand même dans 35 pays, donc c'est quand même pas mal. Là, on a le 6e album de ce groupe qui arrive le 28 mars d'ailleurs. Après, moi, vu que je suis assez versatile dans ce que j'aime bien faire, j'ai écouté beaucoup de classiques avec ma sœur, donc j'aime beaucoup le classique. Elle m'a fait pas mal les oreilles d'ailleurs avec ça, dès tout petit. Et j'aime beaucoup le jazz aussi, j'aime beaucoup la soul. J'aime beaucoup tout ce qui est groovy, rythmé et mélodique. Donc j'ai fait du jazz à côté, j'ai fait de la pop à côté, j'ai fait beaucoup de soul et de rhythm and blues avec un groupe qui s'appelle Mr. Team, que j'ai donc avec Demis de Lattie, qui est aussi dans le,
on va parler de
l'initiateur
Demis,
du projet.
Qui est venu dans cette émission il y a quelques années.
Voilà, et donc du coup, c'est, avec Anna, ce qui nous lie aussi, c'est que je pense qu'on écoute vraiment de tout. On aime bien varier les plaisirs musicaux, et c'est vrai qu'en tant que chanteur, moi j'aime bien expérimenter des voix très différentes qui n'ont rien à voir. Et dans le Pink City, c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de choses très différentes à chanter. Il y a du crooner très jazzy, il y a des choses un peu rock, il y a des choses même presque classiques à des moments.
Ah parce oui, qu'on oui, fait oui, du West Side Story. Les registres sont très variés, oui.
Mais j'ai appris à chanter tout seul. Je suis devenu prof de chant aussi par la suite. Et j'ai appris à jouer la guitare aussi tout seul. Et je suis compositeur de mon groupe, donc auteur et compositeur de mon groupe.
Et vous enseignez à l'école de musique de Gagnac, je crois.
Exactement, je suis professeur de chant là-bas. C'est une école rock, hein. C'est une rock school vraiment, où c'est beaucoup autour du rock et de la pop. On a pas mal de jeunes élèves, on a à peu près 80 élèves dans l'école, qui font du piano, du chant, de la guitare, de la basse et de la batterie. Et c'est des toutes sortes d'horizons qui viennent nous voir, toutes sortes d'âges. Et j'anime cette année aussi, enfin depuis cette année, une chorale rock, où on est une vingtaine à chanter du rock en chorale. Donc c'est encore autre chose.
On a vu ça, sert, on a deux vrais touche-à-tout et deux hyperactifs apparemment.
Oui, c'est vrai qu'on est occupé.
Le Pink City Orchestra maintenant. Alors qui est à l'origine de cette formation et qui sont les musiciens qui la composent? J'ai l'impression qu'il y a des liens forts avec un autre ensemble toulousain qu'on connaît bien, Mélomanie, le Toulouse Wind Orchestra.
Tout à fait, tout à fait. C'est Demis qui est venu nous voir.
Demis de Lattie.
Demis de Lattie.
Donc, clarinettiste, saxophoniste.
Et accordéoniste.
Entre autres. Oui.
Voilà. Et tourneur aussi, il est booker. C'est lui qui trouve les dates de beaucoup de... Il fait travailler énormément de monde sur l'année.
Oui, on se croise très souvent avec Demis sur de divers projets. Moi, très souvent, j'ai chanté avec lui sur des opérettes ou parfois je chantais un peu de classique. Je faisais un oratorio. Je voyais qu'il était dans l'orchestre.
Enfin,
lui aussi, il mélange beaucoup, beaucoup les styles. Moi, j'étais très contente qu'il m'appelle pour faire ça, parce que j'ai toujours adoré la musique de film, et c'était principalement ce que j'écoutais. Donc, aussi, il m'a dit qu'il y aurait West Side Story.
C'est un genre très en vogue maintenant, très apprécié du public.
C'est vrai,
oui. Finalement, oui. Ça a mis un peu de temps, je trouve, mais finalement...
Ouais. Ah, il y a de vrais grands compositeurs dans les musiques de film.
Exactement.
Oui. Bah, nous, ce qui est intéressant, je trouve, dans le Pink City Orchestra, c'est que... Alors, ce sont des musiques magnifiques, et il n'y a pas que des titres très, très populaires. C'est-à-dire que la musique, que ce soit de Vertigo ou de Psychose, voilà, ce n'est pas les musiques que les gens écoutent tous les jours. Et pourtant, les gens sont très clients de ce genre de musique, qui sont peut-être plus... J'allais dire intellectuel, non pas du tout, mais...
En fait, quand ils m'ont demandé un peu d'établir le répertoire, Demis avait quelques idées. Moi, j'ai donné une énorme liste. On a élagué avec les arrangeurs pour que ça soit jouable dans cette formation-là. Dès le départ, j'ai axé quand même en disant j'aimerais bien qu'il y ait une chronologie, qu'on parte vraiment un peu des origines jusqu'à...
Pour raconter l'histoire de la musique
l'histoire
de
la
film.
Musique de film.
Oui, oui, c'est vrai.
Ça se trouvait. J'ai dit, voilà, j'aimerais bien qu'il y ait un peu de pédagogie, qu'on puisse avoir un fil conducteur là-dessus pour expliquer aussi aux gens un peu la musique de film et un petit peu les films en eux-mêmes dont on parle. Et j'ai vraiment émis la volonté d'avoir quelque chose de populaire, mais à la fois pas déjà joué, rejoué, re-rejoué. Je condamne pas du tout ça, parce que c'est très bien, mais c'est ce qui se fait déjà beaucoup, c'est la musique un peu geek, entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qui est très pop culture, ça se fait beaucoup. Donc que ce soit voilà, Star Wars, ou même Tarantino, ou des choses comme ça qui sont très connues du grand public. Moi j'ai dit j'aimerais bien qu'il y ait aussi voilà, un petit peu de Fellini, un petit peu de Hitchcock, même Laurence d'Arabie par exemple, de Maurice Jarre. C'est des morceaux qu'on joue et qui ne sont pas forcément beaucoup joués, que les gens connaissent en général, même les gens qui n'ont pas cette culture-là connaissent un peu.
Oui, parce qu'ils l'ont entendu un jour sans savoir
voilà.
Qui avait composé ça.
Ils savent pas ce que c'est et donc on explique un petit peu, on en parle. Il y a plein de gens par exemple qui savent même pas que Maurice Jarre c'est le père de Jean-Michel Jarre.
Oui.
Donc c'est marrant, on fait une blague un peu là-dessus parce que c'est vrai que c'est des liens, c'est pareil, c'est des genres assez différents quand même. Voilà, on a essayé de vulgariser entre guillemets certaines choses pour qu'on donne aussi envie aux gens de voir des films et d'écouter de la musique de films.
Donc le Pink City Orchestra, directeur artistique Demis de Lattie, directrice de la production et danseuse également Virginie Baillet d'Artigalong, qu'on a reçue également, Serge, vous la connaissez très bien.
Hyperactive, grande hyperactive.
Oui, qui a été danseuse classique à l'Opéra National du Capitole il y a maintenant quelques années. On a Jolie Eftekari à la flûte qu'on a reçue également. Tout ça, ce sont, à part Virginie, ce sont des membres du Toulouse Wind Orchestra.
Tout à fait.
Guillaume Leblanc au corps. On a Audrey Dupont au violon, qui est à l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Enfin, tout ça, c'est des gens qu'on connaît dans d'autres formations.
Ouais.
Vous avez un chorégraphe, bien sûr, parce qu'il y a de la danse. Donc, c'est Nicolas Rambeau qui fait les chorégraphies.
Ouais.
Qui est toute faite.
Oui.
Combien de danseuses sur scène?
Alors, il y a 4 danseurs. Il y a 2 hommes et 2 femmes.
Oui, c'est ça.
Dont Virginie.
Voilà, c'est une petite formation de danseurs. Et c'est bien parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses dans ce spectacle, tellement de musiques différentes que voilà, les passages dansés font du bien. Ça fait aussi des respirations... Enfin, moi, ce que j'adore dans ce spectacle, c'est que ça donne vraiment, vraiment très envie de voir plein de films, en fait. Toi, tu expliques très bien, justement, le lien entre les compositeurs et les réalisateurs. Et c'est très intéressant, justement. C'est pas juste... on n'écoute pas juste
des
musiques.
Oui, c'est de savoir comment travaille un réalisateur avec celui qui compose les musiques. Et inversement, d'ailleurs. Oui. On va se plonger maintenant dans le programme du spectacle Les Étoiles du Cinéma. Mais avant ça, on va vous écouter tous les deux, accompagnés par les musiciens du Pink City Orchestra pour un grand classique de Michel Legrand, Les Parapluies de Cherbourg et la chanson « Je ne pourrai jamais vivre sans toi ».
Depuis quelques jours, je vis dans le silence des quatre murs de notre amour.
Depuis ton départ, l'ombre de ton absence me poursuit chaque nuit et me fuit chaque jour.
Je ne vois plus personne, j'ai fait le vide autour de moi. J'ai renoncé à tout parce que je n'ai plus d'illusions
de notre amour. Écoute la chanson.
Non, je ne pourrai jamais vivre sans toi.
Je ne pourrai pas.
Sans toi,
et je n'existe pas. Oh mon amour, ne me quitte pas.
Mon amour, je t'attendrai toute ma vie.
Reste près de moi, reviens, je t'en.
Je ne pourrai jamais vivre sans toi, la célèbre chanson des Parapluies de Cherbourg, composée par Michel Legrand sur des paroles de Jacques Demy. C'était donc votre version avec le Pink City Orchestra. Alors, quelles sont les autres chansons, bandes originales de films que l'on trouve dans votre spectacle? Les Étoiles du Cinéma, elles sont très nombreuses. J'imagine que vous avez dû beaucoup discuter entre vous pour faire un choix et aussi pour exclure.
Oui,
que choisir, c'est exclure.
C'est exactement. Il y a des choses déchirantes parce qu'il y a des choses auxquelles j'aurais tenu.
Ah, pour un cinéphile comme vous, ça doit être terrible.
Oui, et puis j'essaie de choisir en fonction vraiment des compositeurs un peu majeurs pour qu'il y ait un peu tout le monde. Il en manque, hein. J'aurais aimé qu'il y ait du John Barry, j'aurais aimé qu'il y ait.
Mais il y a James Bond tout de même.
Oui, mais c'est ce petit. Enfin, j'aurais aimé qu'il y ait par exemple Art of Africa, vous voyez.
D'accord.
Il y a un petit peu de John Barry. Ici, il y a Thunderball. Après, bon, c'est un peu vampirisé par Tom Jones parce qu'on
oui,
oublie que c'est Barry, mais c'est quand même Barry.
Ouais, la musique, c'est John Barry.
Voilà, J'ai réussi à mettre quand même des compositeurs que j'adore comme Goldsmith par exemple, des gens un peu voilà, comme ça dont on parle pas forcément souvent alors que c'est quand même un immense compositeur. Mais il y a un peu toutes les périodes, un peu tous les styles, ça c'est bien. À la base on avait du Danny Elfman, même on avait un morceau de Batman, mais qui a l'air très très compliqué à jouer.
Et oui, parce qu'après aussi il fallait pouvoir faire les arrangements pour l'orchestre dont
et
vous disposez.
Voilà, ça sonne plus ou moins bien et on a fait des choix. Mais je suis bien content quand même du programme, assez représentatif quand même du siècle. Il y a un petit peu tout, c'est quand même 100 ans, on couvre un peu plus de 100 ans même de cinéma.
Bah, ça commence avec Autant n'emporte le vent et Les temps modernes, Titine,
voilà.
Donc Charlot qui danse. C'est la première fois qu'on entend la voix de Chaplin d'ailleurs à l'écran, qui chante en onomatopée, donc c'est Titine. Et puis il y a le Magicien d'Oz. Tout ça, c'est ou juste avant la Seconde Guerre mondiale ou juste après, ou pendant c'est... Et puis, bon, on arrive jusqu'à... qu'est-ce qu'il y a de plus récent? C'est les films de Tarantino, c'est le medley
c'est
Tarantino.
C'est plus récent, il y a un morceau de The Mask aussi, mais qui est purement jazz. Là, c'est vraiment du swing, hein, ça rebondit.
Pachuco,
ouais. Et Pachuco. On a aussi, ce qui est intéressant, je disais tout à l'heure, on a par exemple Laurence d'Arabie, un très beau morceau aussi. On a un medley Amblin qui est intéressant, c'est-à-dire la boîte de production de Spielberg. Donc à la fois, il y a un morceau assez méconnu d'Indiana Jones, c'est le Temple Maudit. Très très dynamique, c'est le morceau qui s'appelle Slave Children's Crusade et qui est un morceau pour moi magnifique mais qui n'est jamais joué, qui est très beau. On a un morceau de Dave Rosin aussi des Goonies par exemple, on a Gremlins de Goldsmith et le medley Herman qui est très beau aussi avec La mort aux trousses, avec Psychose, avec Vertigo. Voilà, c'est des
medley
choses.
Fellini
à
Rota bien sûr.
On a Marcord, on a 8,5, on a La Strada, voilà, c'est des choses.
Le Parrain.
Et le Parrain.
La valse.
Voilà, la valse aussi.
Nino Rota encore.
Encore Nino Rota. Bon, Ecstasy of Gold de Morricone. Là, on était un peu obligé
Bruxelles-Truand.
De passer par là.
Saturday Night Fever.
Voilà, alors ça, voilà, ça détonne. Les Bee Gees.
Anna, ça doit vous plaire.
Ah, bah, on est super fans de chanter ça. Les Bee Gees. On en fait deux d'ailleurs. On fait Saturday Night Fever et How Deep Is Your Love.
Oui.
Voilà.
Et puis il y a le medley Louis de Funès. Parce que là, il y a plusieurs compositeurs, forcément.
Oui, donc on a Cosma avec Rabbi Jacob, on a Lefebvre avec La Soupe aux Choux et Le Gendarme extraterrestre, et on a Magne avec Fantomas.
Ah oui, Michel Magne.
Voilà, qui est un thème très beau, très jazzy aussi. Et c'est drôle parce que les gens, du coup, mettent un peu aussi des noms sur les compositeurs dont on ne parle pas forcément. À part Cosma, c'est vrai que les compositeurs de Funès, c'est dommage, on ne cite pas forcément leurs noms.
Enfin, Michel Magne a pu être connu à une certaine époque. Mais
par exemple, j'aurais voulu mettre du François de Roubaix, par exemple.
Je me suis posé la question. Il n'y a pas François de Roubaix. Personnellement, j'en rêve parce que j'adore ce compositeur.
Moi aussi. Et j'aurais bien voulu, à la base, j'aurais bien voulu mettre l'homme orchestre, par exemple. Il était dans ma liste puisqu'il a fait l'homme orchestre pour de Funès.
Absolument.
Mais bon, elle a été enlevée parce que je pense que c'était un peu compliqué aussi dans la formation. C'est très élaboré de Roubaix, hein. C'est un peu complexe.
Ah bah oui, bien sûr.
Et mais on aurait pu faire Le Vieux Fusil, par exemple, ou des choses comme ça. Je pense que pour la saison 2, on va
rajouter
des
choses. Ouais, on peut pas tout faire.
Qui a fait les arrangements? On peut peut-être donner leur nom, hein, puisqu'ils sont quatre, je crois. Hein.
Ils sont quatre. On a donc...
Fabien Versavel.
Exactement, Fabien Versavel, qu'on appelle Galinette chez nous.
Tiens donc.
Guillaume
Cerreto. Bastien Maury. Et Pierre Planas.
Et Pierre Planas, qui est multi-instrumentiste aussi, qui est guitariste, pianiste, bassiste, chanteur, qui fait beaucoup de choses dans le spectacle.
Alors on va écouter un autre extrait du programme Les Étoiles du Cinéma avec la bande originale du film Le Magnifique, tourné par Philippe de Broca en 1973, avec Jean-Paul Belmondo dans le rôle titre. On écoute le Pink City Orchestra. We'll be right back. Le Pink City Orchestra jouait cet extrait de la bande originale du film Le Magnifique, tourné donc en 1973 par Philippe de Broca. Bande originale composée par qui, Serge Sozzi, vous qui savez tout? Je vous donne quand même un indice, hein, parce que c'est le même compositeur que pour celle de Borsalino et pour la série Les Brigades du Tigre.
Ouf, il va trouver. Là, je donne ma langue au chat.
Je donne le prénom, Claude. C'est pas Nougaro, évidemment.
Non.
Mais c'est un jazzman aussi.
Ah ah. Non, je sais pas.
Claude Bolling.
Ah,
vous voyez, j'étais sûr que vous pouviez trouver.
Claude Mollet.
On n'y pense pas forcément quand on l'entend comme
et
ça.
Et non, c'est vrai. Est-ce qu'il y a une chorégraphie sur tous les morceaux du spectacle, une espèce de mise en scène ou une scénographie en tout cas?
Non, enfin la danse n'est pas sur tous les morceaux,
non.
Mais sur pas mal quand même, elle est assez présente. Par exemple, on a un long passage sur West Side Story, où là forcément la danse est quand même très importante.
Bien
parce
sûr.
Que c'est ça, voilà, ça évoque le film original, donc là ils sont très présents. Après ils dansent sur quoi? Sur...
Oh, ils dansent, ils viennent à des moments des fois inattendus. Hein. Il y a Virginie qui vient danser sur un morceau Tarantino à un moment, on s'y attend pas. Il y a la danse sur les parapluies de Cherbourg aussi.
Sur le magicien d'Oz.
C'est un élément prépondérant du spectacle. Les étoiles du cinéma, c'était à la base aussi un spectacle de Virginie. On s'est associé avec la compagnie des étoiles occitanes donc pour créer une sorte de création vraiment qui mélange un peu tous les styles. Il n'y a pas uniquement de la danse. On pourrait se dire, vu qu'il y a beaucoup de jazz, il y a beaucoup de cabaret. Mais non, c'est quand même des danseurs classiques qui se mélangent avec des danseurs un peu plus modernes. Et nous deux, qui avons des voix qui venons de milieux différents, on essaie de métisser un peu tout ça pour que le son et le visuel soient un peu différents de ce qui se voit d'habitude.
Je vais donner les noms des danseurs parce qu'il le faut. Donc oui. Il y a Patrick Bertrand, Amaury Barreras, Lisa Lanteri et donc Virginie Baillet d'Artigalong. On va écouter, pour conclure cette présentation des étoiles du cinéma, un troisième morceau, hein, Ecstasy of Gold, extrait de la bande originale du film Le Bon, la Brute et le Truand, composé bien sûr par Ennio Morricone et arrangé par et pour le Pink City Orchestra avec la voix d'Anna Ramad. Ecstasy of Gold, extrait de la BO du film Le Bon, la Brute et le Truand, composé par Ennio Morricone, arrangé et interprété par le Pink City Orchestra et Anna Ramad. Voilà pour le programme Les Étoiles du Cinéma, à découvrir sur la scène du Casino Barrière de Toulouse le dimanche 9 mars à 17h. Il y a donc un concert à vous annoncer cette semaine, celui que donne l'Orchestre National du Capitole, encore sous la direction de Tarmo Peltokoski, ce samedi 11 janvier à 20h à la Halle aux Grains, avec une seule œuvre au programme, de nouveau, The Sea Symphony, la première symphonie composée par Ralph Vaughan Williams, Serge.
Oui, un compositeur dont on n'entend pas souvent les œuvres. J'avoue n'avoir entendu à Toulouse qu'une seule œuvre, plusieurs fois, The Lark Ascending, un court poème symphonique très très beau. C'est l'envol de l'alouette. Hein. Et donc là, on aura droit à la réhabilitation en fait de ce grand compositeur qui est Ralph Vaughan Williams. Pour le situer, il est né en 1872, mort en 1958, et il a vraiment largement contribué au rayonnement de la musique anglaise, au point d'être enterré aux côtés d'Henry Purcell. Donc on aura droit à cette première symphonie, A Sea Symphony, la symphonie de la mer, qui a été créée au Festival de Leeds en 1910. C'est écrit pour soprano, baryton, chœur au pluriel et orchestre enrichi d'un orgue. Et donc les textes sont de Walt Whitman, un poète américain. 4 mouvements à cette symphonie. Ça réunira cette fois sous la direction de Tarmo Peltokoski la soprano Chen Rice, qui avait déjà été la soliste des 4 derniers leads de Strauss le 3 mai dernier, et le grand baryton Sir Simon Kinleyside, et le chœur qui vient ici à Toulouse, c'est un chœur connu de Toulouse.
Il y a 40 L'Orphéon, ans qu'il vient à Toulouse. Hein,
Donostiara.
C'est Michel Plasson qui l'avait invité la première
c'était
fois.
C'était Michel Plasson qui l'avait invité.
Début des années 80.
On va découvrir cette première symphonie, et ça ne sera pas tout, puisque Tarmo Peltokoski a décidé de diriger à la halle au grain l'intégralité des 9 symphonies de Vaughan Williams. Lui aussi a composé.
Oui, il adore ce compositeur.
Ah, il l'adore, et il compte l'enregistrer avec l'Orchestre National du Capitole, et tout ceci à la Deutsche Grammophon, puisqu'il est
prestigieux label Deutsche Grammophon.
Donc, un compositeur dont on entendra parler très souvent.
Et j'en suis très heureux pour ma part, et pour que vous puissiez vous faire une idée de cette œuvre très rarement donnée en concert en France et à Toulouse en particulier. Voici le 3e mouvement de la Sea Symphony, la première symphonie de Ralph Vaughan Williams, The Waves, les vagues. The Waves, les vagues, 3e mouvement de la Sea Symphony de Ralph Vaughan Williams, que donne donc l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Tarmo Peltokoski ce samedi 11 janvier à 20h à la Halle aux Grains. Et puis, un peu en avance de phase, nous voulions aussi vous annoncer le concert Happy Hour de l'Orchestre du Capitole du samedi 25 janvier, c'est à 18h, et c'est également à la Halle aux Grains. Il est dédié au basson, et il va être dirigé par une très grande bassoniste française, également chef d'orchestre, Sophie Dartigalong. Et Sophie Dartigalong, c'est la sœur de qui, Serge ? Là, vous avez la réponse.
Virginie,
De Virginie Baillet-Dartigalong.
Oui, exactement. Donc, elle sera là pour animé un concert, les concerts courts du samedi après-midi, hein, à 18h, autour du basson. Et elle sera entourée de deux bassonistes de l'Orchestre National du Capitole, Estelle Richard et Guillaume Brun, et également de la contrebassoniste Marion Lefort, pour un programme qui associe des œuvres de Vivaldi, un concerto pour deux bassons, de Daniel Baldwin, qui est un compositeur né en 1978, hein, concerto pour contrebasson. On entendra le premier mouvement Mysterioso, et puis un andante rondo hongrois de Carl Maria von Weber, et enfin la suite Pulcinella d'Igor Stravinsky. Donc un beau programme, très riche, original. Hein,
très riche et original, très effectivement. Riche. Avant de conclure cette émission, encore un peu de musique avec cet extrait de l'andante rondo hongrois pour basson et orchestre de Carl Maria von Weber. Début de l'andante et rondo hongrois pour basson et orchestre de Carl Maria von Weber, une des pièces au programme du concert Happy Hour que donne l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Sophie Dartigalongue le samedi 25 janvier à 18h à la Halle aux Grains. C'est également à la Halle aux Grains que l'Orchestre du Capitole est en concert ce samedi 11 janvier mais à 20h sous la direction de Tarmo Peltokowski, l'ensemble symphonique toulousain, le chœur Orfeum de Nostiera et les chanteurs Chen Rice et Simon Kinleyside vont donner A Sea Symphony, la première symphonie composée par Ralph Vaughan Williams. Les places sont à réserver et acheter sur le site www.onct.toulouse.fr pour ces deux concerts. Et je rappelle que le Pink City Orchestra, Anna Ramad et Julien Casarino donnent leur spectacle Les Étoiles du Cinéma sur des chansons et musiques de films le dimanche 9 mars à 17h au Casino Barrière de Toulouse. La billetterie est en ligne sur le site www.casinobarrière.com. Vous avez aussi un lien direct sur le site www.pinkcityorchestra.fr. Je remercie Serge Chosy qui a co-animé cette émission avec moi et je remercie aussi nos deux invités Anna Ramad et Julien Casarino d'avoir été présents à nos côtés. Merci également à Christophe Aubry, le réalisateur de ce numéro. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant comme d'habitude sur le site web de Radio Présence. Et merci enfin à ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Excellente semaine musicale à tous.